Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous pouvons passer ensemble en ta présence, avec ta parole qui a été dictée par le Saint-Esprit à tes apôtres. Nous te remercions, Seigneur, de pouvoir plonger nos regards, nos cœurs dans cette parole afin d'en tirer une consolation, une aide, quelque chose qui nous fortifie, qui nous soutient et qui nous guide. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment de méditation de ce soir. Je te prie que nos cœurs soient dans la paix, que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous dire, afin que nous puissions sortir de là avec des forces nouvelles et des objectifs renouvelés. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter le numéro 51. Te ressembler Jésus. Alors on n'a pas de musicien, donc on va le faire a cappella. Hein? Aïe, ça va être dur. On va y arriver. Te ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. On va ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ce que l'ennemi de Jésus veut, c'est que nous ne soyons pas efficaces et que nous soyons ralentis dans notre marche. Ce que Jésus veut, lui, de nous, c'est que nous prolongions ses jours, que ce qu'il a fait, nous le fassions, que ce qu'il était, nous le soyons. Alors, il nous dit de porter son fardeau. Il parle à des gens qui sont fatigués, il parle à des gens qui sont chargés et je pense que vous allez tous vous dire, voilà, moi c'est vrai, je suis chargé par ce souci, par ceci, par cela, par cette maladie. On a tous des choses qui nous arrivent. Et il nous appelle à venir à lui, mais pas seulement pour venir comme ça, pour qu'il nous passe la main dans les cheveux en nous consolant, nous disant une bonne parole, mais il veut que nous venions pour prendre quelque chose de lui. Prendre sur nous-mêmes son fardeau. Vous me direz, j'ai déjà mon fardeau, il faut encore en plus que je prenne le sien. Vous voyez, mes frères et sœurs. Jésus, lui, est-ce que vous avez déjà pensé qu'il porte un fardeau? Mes frères et sœurs, tout esprit qui vient s'incarner, tout esprit qui vient se mouvoir dans cette création, porte un joug. Au commencement, ce n'était pas comme ça, mais à cause du péché, c'est devenu comme ça. Quelque chose a changé. Et Jésus lui-même, en venant dans cette condition humaine, en entrant dans ce monde, en se voilant dans une chair semblable à la nôtre, eh bien, il s'est retrouvé portant un joug. Pourquoi veut-il que nous portions son joug? Eh bien, parce que son joug est doux et son fardeau, il est léger. Un fardeau, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on doit porter. On doit le porter. Il y a une raison, on ne sait pas pourquoi on doit porter ça. On a des difficultés, on a des problèmes, on a des choses. Et on doit porter ce fardeau. Jésus sait pourquoi. Et il sait que vous devez porter un fardeau. Mais plutôt que de porter le vôtre, qui est lourd, il vous propose de porter le sien, qui est léger. Il vous dit, si vous vous occupez de mes affaires, je m'occupe des vôtres. Si vous portez mon fardeau, je vais porter le vôtre. Il y a de quoi méditer là-dessus, non? Il y a de quoi méditer. Jésus, quand il parlait là, Dans ce texte que on vient de lire, c'était dans le temple à Jérusalem, et il n'y avait que des Juifs. Et les Juifs, ils savaient très bien de quoi Jésus parlait quand il parlait de fardeaux lourds, de joug difficile à porter. Ils savaient très bien de quoi il parlait. Il leur parlait du joug de la loi, que la loi leur imposait. C'est un joug que personne n'avait jamais réussi à porter. Dans Actes, chapitre 15, verset 10, c'est écrit « Personne n'a jamais réussi à porter ce joug-là ». La loi, elle semblait avoir été donnée afin de sauver les gens qui s'y soumettaient. Du moins, ça paraît logique. Voilà, tu fais ça, je te bénis, tu fais pas ça, tu n'es pas béni. Donc voilà, pour être béni, il faut faire ça, 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 ça. Mais on n'y arrivait pas. Personne n'arrivait à se soumettre. Alors c'était devenu, non seulement l'obéissance est un fardeau, mais le fait de ne pas pouvoir obéir, c'était aussi un fardeau. C'était un fardeau qui était lourd, c'était un joug qui était difficile, ça n'était pas aisé. Et maintenant, l'apôtre dit, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Par la grâce du Seigneur Jésus, parce que c'est un cadeau. Et ça nous soulage, c'est un soulagement que de savoir que nous n'avons plus à nous soumettre à une loi terrible, il faut bien le dire, pour être sauvés, mais nous sommes sauvés par grâce. Et maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous avons reçu le cadeau du pardon de Dieu gratuitement, sans que nous ayons un effort à faire, eh bien, nous est demandé une chose, c'est de porter le fardeau de Jésus. Mais c'est quoi le fardeau de Jésus alors? Qu'est-ce que c'est le fardeau de Jésus? Eh bien, c'est léger. C'est léger, c'est vrai. Bon, alors mettons, c'est léger à comparer avec le poids écrasant du fardeau de la loi, mais c'est tout de même un fardeau. Puis c'est quoi? C'est quoi réellement? C'est quoi le fardeau? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est le fardeau de la séparation. Paul l'enseigne. Il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous voyez? Une séparation. Paul, il exhorte chacun des fidèles à ne pas se mettre sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 7, 14 à 16. Mais alors, qu'est-ce qu'un infidèle? Le mot infidèle signifie qui manque à ses engagements, qui manque d'exactitude. C'est donc pas un inconverti. C'est pas un inconverti. Paul dit, juste après avoir dit de ne pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles, il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Plus loin dans le livre d'Apocalypse, il dit aussi, sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens 7, 14 à 18. Dieu veut donc un peuple à part, et à nous, qui sommes ici au château sanctuary, il nous a dit de sortir de Babylone, c'est-à-dire de l'église mondaine, de cette église qui a été créée par l'homme. Déjà, certains sont sortis, les protestants sont sortis, ensuite il y a eu d'autres qui sont encore sortis, puis encore d'autres qui sont sortis, puis encore d'autres qui sont sortis. Mais tout ça, la Bible dit que ce sont les filles de la grande Babylone. Et que nous devons sortir de tout ça, c'est-à-dire pas seulement sortir des religions, mais sortir de ce système. Ils ne sont jamais sortis du système, ils ont toujours recréé ce système. Mais à nous, il nous a été dit de sortir de ce système et de vivre comme les premiers chrétiens vivaient. Mais cependant, il nous conduit à y retourner pour aider les siens à en sortir. Alors, ça paraît toujours un petit peu bizarre. Et je parlais avec mon ami Victor Escroignard cette semaine, puisque j'ai eu le plaisir et la joie de le retrouver, après je crois, 23 ans qu'on ne s'était pas vraiment vu. Et puis, je lui disais, on est un petit peu comme l'apôtre Paul qui était sorti de cette religion pharisianique, mais qui était tout le temps fourré dans les synagogues, parce qu'il aimait ces gens, il voulait les sortir de là. Il voulait les amener à la grâce. Il voulait que ces gens soient débarrassés de ce fardeau. Et nous aussi, on aime ces gens dans ces dénominations. C'est pourquoi on y va, c'est pourquoi on leur prêche. En fait, c'est la seule raison pour laquelle nous travaillons encore, pour encore un petit peu de temps, dans les diverses dénominations religieuses. C'est uniquement pour ça. On ne cherche pas d'autres avantages chez eux. On ne cherche rien chez eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Nous y allons pour faire connaître le salut parfait en Jésus-Christ. Nous y allons pour faire connaître le message eschatologique, c'est-à-dire le message qui concerne la fin des temps. Et nous manifestons la puissance miracle de guérison pour prouver que ce que nous disons, c'est vrai. Que ce que nous disons est approuvé par Dieu. Que ce que nous enseignons est scellé par son esprit, confirmé par des miracles selon la parole de Jésus dans Marc 16, verset 20. Il n'y a rien qui nous intéresse plus que ça. Il n'y a rien. Notre communauté n'existe que pour ça. Pour être un témoignage. Et mes frères et sœurs, c'est ça notre fardeau. On a tous des fardeaux, vous allez me dire, oui, bien sûr. Mais on a tous, oui, chacun a des bobos, des maladies, des trucs, des machins, des problèmes. Mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est les fardeaux qu'on a quand on est dans ce monde. On est dans ce monde, les gens du monde ont les mêmes fardeaux, les mêmes maladies qui ont les mêmes noms. Vous comprenez ce que je veux dire? Les mêmes problèmes financiers. Mais nous avons un fardeau différent, c'est celui de Jésus. Et c'est celui-là qu'on doit porter. Il dit, si vous portez celui-là, je vous porte le vôtre. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Il ne faut pas perdre de vue quel est le fardeau, le réel fardeau que nous avons. Ne nous laissons pas écraser par le fardeau que tout le monde, même les inconvertis, porte. Rien ne nous intéresse plus que le fardeau de Jésus. C'est ça notre fardeau. On l'a pris des mains percées de Jésus et nous le portons. Mais qui a compris ça? Eh bien, ceux qui écoutent avec des oreilles ointes. Alors, gloire à Dieu, la Bible nous dit, Jésus nous dit qu'il nous a affranchis. C'est-à-dire qu'il nous a rendus indépendants. Nous ne dépendons que de lui, nous ne dépendons pas des dénominations religieuses, nous ne dépendons pas d'un pape ou d'un bureau ou de frères qui décident ce que nous avons à faire. Et non, non, nous dépendons de Jésus-Christ. Nous ne dépendons pas du portefeuille, d'une mission qui doit nous soutenir, qui a des comment on appelle ça, des projets missionnaires pour pouvoir nous aider à partir ici ou là. Non, 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 nous ne dépendons que de lui. Et Paul nous exhorte en disant, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, 1. Personne ne doit venir nous mettre un joug. Nous n'acceptons que le joug de Jésus. Aucune autre contrainte. Personne n'a à nous dire ce que nous avons à faire, comment nous devons le faire et toutes ces choses. Ni juger. L'apôtre Paul dit, vous pouvez me juger tant que vous voulez. Il n'y a que Dieu qui me juge. Moi, je ne me juge même pas moi-même. Je sais que ce que je le fais de tout mon cœur. Et si c'est faux, ben Dieu le sait et il me pardonne. Il nous a affranchis, mes frères et sœurs. Et ça signifie deux choses, parce que le mot affranchi signifie beaucoup de choses, mais en particulier deux choses. Premièrement, il nous a rendus libres, libres du joug de la loi. Mais il a fait plus encore. Pour ceux qui font sa volonté, pour ceux qui sont ses amis, il les met dans la confidence, c'est-à-dire il nous affranchit dans le sens qu'il nous informe d'un secret. Vous savez qu'on dit que quelqu'un est un affranchi, c'est quelqu'un qui est mis au courant. Vous le savez ça? C'est le français. Je parlais avec frère Victor encore. Tiens, on parle beaucoup de Victor aujourd'hui. C'est normal, je viens de le retrouver, on a passé deux jours ensemble. Et on parlait de la langue hébraïque parce qu'il parle l'hébreu comme je parle le français. Peut-être même mieux encore. Et je disais, mais la langue française aussi est très riche. Et il me dit, oui, mais malheureusement maintenant elle est bradée, on s'en fiche de... Mais les mots ont une valeur extraordinaire. Avez-vous déjà pensé que le mot affranchi, ça veut dire tenu informé d'un secret? Eh bien, c'est ce que Jésus a fait quand il nous a affranchis. Et ce secret nous rend libres. Il a révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Par exemple, les secrets concernant les sept sceaux d'Apocalypse, dont les infidèles n'ont rien à faire. Le secret du séjour des morts qui est ouvert, dont les infidèles n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire avec ce mystère-là, avec ce secret-là. Le secret de sa volonté manifesté par l'épouse, ils n'en ont rien à faire de ça, les infidèles. En nous, il a mis son esprit et il nous renseigne, il nous affranchit, il nous rend libres. Parce que la seule vérité qui rend libre, mes frères et sœurs, c'est celle qu'il peut nous donner. Encore faut-il la connaître, encore faut-il l'apprendre. Encore faut-il s'efforcer de la mettre en pratique. Et je dis bien s'efforcer. Je dis bien s'efforcer parce que c'est un fardeau. À partir du moment où on est du côté de Jésus, on a un fardeau que les gens du monde ne peuvent pas connaître. Ils ne s'imaginent pas, ils ne savent pas. Ils ne peuvent même pas penser ce que c'est. Bien sûr, on leur dit, nous avons avec Jésus la paix, la joie, le bonheur, c'est vrai. Mais il y a un fardeau que personne ne peut connaître. C'est un fardeau. C'était aussi un fardeau pour Jésus et ça l'est aussi pour nous. Un jour, juste pour vous donner un exemple, Jésus, excédé par les prétentions et la médiocrité de ses disciples, il s'est écrié « race d'incrédules, race perverse » à ses disciples. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Il en avait marre, il avait envie de se tailler, il avait envie de partir, il avait envie que son père le ramène à la maison. Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Il en avait parfois marre de ses disciples, il en avait des fois ras-le-bol, et pourtant, ce n'étaient pas des infidèles. C'était juste un peu borné, mettons. Mais vous voyez, c'était un fardeau pour Jésus de les voir comme ça, lourdeaux. Maître, on a essayé, mais on n'a pas réussi. Mais jusqu'à quand je vais vous supporter encore? Vous voyez? Et il s'énerve contre ses disciples. Il leur dit, incrédule, pervers. On peut dire, oh, Jésus, tu vas fort, pervers. Oui, oui, pervers. Parce que pervers, un pervers, c'est une personne qui n'est pas conforme au résultat espéré. C'est ça un pervers. Alors vous voyez, le fardeau de Jésus, celui qui nous demande de porter, c'est celui d'aimer, un, les religieux, c'est-à-dire les infidèles, et deux, les disciples. Ces deux choses-là, c'est un fardeau. Aimer les religieux infidèles en leur apportant fidèlement ce que Dieu nous a donné, c'est un fardeau léger, soit, mais c'est un fardeau quand même, et il suffit de s'y frotter pour s'en rendre compte. Deuxièmement, le fardeau de Jésus, c'est de supporter l'incrédulité des autres disciples et leur perversité. C'est-à-dire, ils ne sont pas ce qu'on attend qu'ils soient. Et nous en sommes tous là, mes frères et sœurs. On attend tous de l'autre qu'il donne des résultats différents de ce qu'il nous apporte. C'est des pervers. C'est énervant des moments. Ça ne vous énerve pas des moments dans la communion fraternelle, mais bien sûr que ça nous énerve. Surtout quand on vit en communauté. J'écoutais la prédication de frère Alain tout à l'heure. Et c'est vrai que plus on vit près d'une personne, plus c'est bien, mais aussi les choses qui sont désagréables sortent aussi. Quand on ne connaît pas les gens, c'est alléluia, je t'aime de l'amour du Seigneur, c'est superficiel et léger, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, ils arrivent encore à en avoir, même, en plus. Mais bon, quand on vit vraiment ensemble, c'est... L'incrédulité n'est pas seulement de ne pas croire en Jésus. L'incrédulité, c'est aussi de ne pas croire ce qui est écrit dans la Bible, et c'est aussi de ne pas croire dans l'honnêteté des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire soupçonner le mal, être incrédule au sujet des autres. Pourquoi il m'a fait ci? Pourquoi il m'a fait ça? Et soupçonner que c'est par méchanceté. Imaginez que c'est par pure méchanceté, mesquinerie. Voir le mal partout, c'est de l'incrédulité. Se méfier des autres, c'est de l'incrédulité. Tout ça, ça fait partie de l'incrédulité. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas, c'est Jésus qu'il ne reçoit pas. Il est incrédule. Ce qu'on vous fait à vous, c'est à Jésus qu'on le fait. C'est être incrédule. Oser vous faire du mal à vous, c'est oser en faire à Jésus. Il faut être incrédule pour oser faire du mal à Jésus. Vous soupçonnez l'autre de malveillance, eh bien vous soupçonnez celui qui l'a mandaté. Il n'est pas malveillant, deuxièmement des fois maladroit, un peu borné. Ça arrive aux plus grands, Pierre, l'apôtre et tout ça. Jésus, il a énervé Jésus, l'apôtre Pierre. On dit toujours, oui Jésus, la seule fois où il s'est mis en colère, c'est dans le temple. Faux, il s'est aussi mis en colère avec ses disciples. Mais jusqu'à quand je vais vous supporter, une bande de pervers. C'est terrible. C'est de l'incrédulité, c'est de la perversité. Eh bien, mes frères et sœurs, Jésus nous dit, prenez mon joug. Ce fardeau qui est doux et léger, il est doux et léger par rapport au joug de la loi. C'est vrai, mes frères et sœurs, c'est vrai. Jésus nous invite à porter son fardeau, mais pas seulement le sien. Il exhorte à plus encore. Il nous exhorte à plus. Il nous exhorte à porter le fardeau les uns des autres. Le fardeau que Jésus veut que moi, Michel Janton, je porte, le fardeau qu'il veut que je porte, c'est le vôtre. Et le fardeau que j'ai, que moi, Michel Janton, je porte, Jésus veut que vous m'aidiez à le porter. Il veut que vous ne me laissiez pas seul à le porter. Bien sûr, vous pouvez me dire, mais Jésus est avec toi, c'est un joug, ça se tire à deux. Toi, tu es d'un côté, puis Jésus est de l'autre. Et puis à chacun son fardeau. Moi, je porte le fardeau de Jésus avec Jésus. Toi, tu portes le fardeau de Jésus avec Jésus, mais je ne peux pas encore prendre plus. Oui, vous devez porter aussi le mien. Vous ne pouvez pas dire, oh, mais Jésus est avec toi, tes plantes vertes sont magnifiques. Ça va comme ça, non? Pour accomplir la loi de Christ, nous dit l'apôtre, eh bien, vous devez porter mon fardeau et je dois porter le vôtre. Galates 5, 2. Jésus nous a affranchis de la loi de Moïse, mais il y a une loi de Christ. C'est un fardeau aussi. Beaucoup plus léger que celui de Moïse, mais c'est un fardeau aussi. C'est une loi aussi. Vous voyez? Évidemment, il y a des moments où je n'ai pas besoin de votre aide. C'est un fardeau, mais il est léger, puis il y a aussi les compensations derrière. Il y a toute cette joie que je peux ressentir dans ma vie, des choses que je fais, tout ça c'est bien. Mais il y a le fardeau derrière. Et il y a des moments où ça arrive que j'ai besoin que vous m'aidiez parce que ça commence à devenir pesant. Et c'est la même chose pour vous. Mais le truc, la chose difficile, c'est que quand on est chrétien, on a gardé quelque chose du monde encore. C'est qu'en général, quand on souffre, on se cache. Mais il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Quand Jésus en a eu marre, ben il l'a dit. Quand Jésus en a eu gros sur la patate, il l'a dit. Il ne faut pas se cacher, il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Une panne d'électricité. C'est reparti, c'est bon, je peux continuer. J'étais en train de dire que ce que Jésus a fait quand il en a eu marre, quand c'est devenu trop pesant pour lui, il l'a exprimé, il l'a dit. Vous peinez? Mais on ne le voit pas forcément, vous savez. Parce que nous-mêmes, on peine des fois. On a nos trucs, on a nos machins, puis on est dedans, puis on ne se rend pas bien compte. Que l'autre à côté, il a quelque chose, c'est peut-être pire. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est sur nous-mêmes. Alors c'est vrai que nous-mêmes, on doit aider l'autre. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que les autres voient toujours bien clair. C'est pourquoi il faut s'exprimer, mes frères et sœurs. Il faut dire les choses. Ne dites pas, oh, mais personne ne se rend compte que j'ai de la peine. Personne ne se rend compte que j'ai des fardeaux. C'est pas possible qu'on se rende compte toujours que vous avez un fardeau. Ne pensez pas, personne ne m'aime. Non, ça vient peut-être de vous aussi qu'il ne vous exprimez pas, qu'il ne dites pas vos peines, qu'il ne dites pas vos fardeaux. Moi, j'embête tout le monde avec mes fardeaux. Je raconte à tout le monde mes fardeaux, mes problèmes, mes machins et tout. Il y en a, ça leur casse les pieds. Mais je dis, il faut dire, il faut parler. Sinon, on n'arrive pas. Jésus, il a parlé parce que son fardeau à lui, à un moment donné, c'est devenu trop pesant. Mais jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Vous voyez, mes frères et sœurs, ne vous isolez pas quand vous en avez marre, quand vous n'en pouvez plus, quand c'est trop lourd, quand vous avez envie de crier, mais jusqu'à quand faut-il encore que je sois avec vous? Mais jusqu'à quand encore il faut que je vous supporte? Jésus, mais quand c'est que tu vas revenir? J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Jésus s'exprimait. Exprimez-vous. Dites-le. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, nous dit l'apôtre Paul. La loi de Moïse était un fardeau que personne n'a pu porter. Et la loi de Christ est un fardeau qu'on peut porter parce que quand par moment ça devient trop pesant, on a les autres pour nous aider. Pour la loi de Moïse, c'était chacun pour soi. Dans la loi de Christ, c'est on est tous là les uns les autres. Amen. Parce qu'il y a cet amour. Alors prenez courage, exprimez-vous. Et accomplissez chacun, pour votre part, la loi de Jésus-Christ. C'est-à-dire en faisant attention que le frère à côté ne soit pas submergé, écrasé par son fardeau. Prenez-le, portez-le avec lui sur un bout de chemin. Et puis si vous, vous êtes écrasé, ben faites-le, dites-le, exprimez-vous afin qu'on puisse vous aider aussi. Que chacun fasse sa part dans cette affaire pour partager les fardeaux. Jésus a dit, prenez mon fardeau. Ben moi je vous dis, prenez le mien. Dites-moi aussi, prends le mien, Michel, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, là. Prends un peu de mon fardeau. Venez me trouver, parlons, prions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te remercie pour ces quelques mots que tu m'as inspirés pour mes frères et sœurs. Je ne sais pas ce que c'est leur problème, je ne sais pas où ils en sont, dans ce portage de fardeau qu'ils ont. Et je te demande, mon Dieu, déjà, d'une première chose, c'est qu'ils se rendent compte que s'ils laissaient un peu leur fardeau personnel, pour se charger de ton fardeau, eh bien, tu prendrais soin de leur fardeau. Parce que tu as dit, si vous occupez premièrement des choses du royaume de Dieu, eh bien toute chose, je vous donnerai toutes choses par-dessus, je prendrai soin de vous. Et ensuite, Seigneur, je te demande que dans la communion fraternelle, les uns et les autres, nous puissions échanger et de temps en temps nous aider à porter sur un bout de chemin les fardeaux qui sont les nôtres. Et je te remercie, mon Dieu, de pouvoir nous permettre d'avoir ces yeux ouverts, le cœur ouvert, afin que nous puissions manifester cet amour. Merci, Jésus, aussi pour ce fardeau que nous avons, pour cette église apostate que nous cherchons à aider. Merci aussi, Seigneur Jésus, de nous donner toujours d'être bienveillants et de ne pas nous lasser. Seigneur Jésus, tu vois pour ma part combien je suis fatigué en ce moment avec toutes ces incompréhensions, ces stupidités, ces bêtises et ces méchancetés. Je te demande, mon Dieu, de m'aider, de me fortifier, de venir à mon secours afin que cela cesse pendant un moment, que je puisse respirer et repartir avec bon courage dans ton œuvre. Merci, Jésus. Amen. Amen.